mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
René Girard publia en 2006, en langue italienne, un livre d'entretien entre le philosophe Gianni Vattimo et lui-même. Ces entretiens furent publiés en français en 2009 sous le titre de « Christianisme et modernité ». Voici quelques extraits de ces entretiens. René Girard. Le christianisme représente une rupture dans l'histoire culturelle de l'homme, en particulier dans son histoire religieuse. Car pendant des dizaines de milliers d'années, les religions ont été ce qui a permis aux communautés primitives de ne pas s'autodétruire. Souvent, en effet, les êtres humains, plus encore que les animaux, font preuve de violence. Mais attention, par ce terme je désigne non pas un comportement agressif, mais un phénomène inhérent à certaines dynamiques sociales. Représailles, vengeance, volonté de rendre œil pour œil et dent pour dent. Tout cela parce que l'être humain est fondamentalement compétitif, parce que les hommes désirent toujours les mêmes choses que les autres hommes, car ils sont, selon mon expression, mimétiques. Et aussi parce qu'ils se livrent à des guerres intestines et entretiennent des conflits sans fin, qui instaurent des cercles vicieux de violence, dont aucun système judiciaire ne permet de sortir. Voilà pourquoi la mythologie, et surtout les mythes sur les origines, commencent toujours par le récit d'une crise, une crise dans les rapports humains, souvent interprétée comme une plaie ou une peste. Cette crise se conclut d'ordinaire par une altération soudaine de l'unanimité mimétique, en vertu de laquelle la violence de la communauté se polarise sur une victime choisie pour des raisons arbitraires. Avec sa mise à mort, l'ordre social est rétabli. Telles sont les grandes lignes du schéma de structuration mythique des cultures et des religions primitives, qui repose sur un lynchage fondateur, une expulsion d'abord réelle, puis symbolique, de victimes innocentes. Le christianisme, qui, contrairement à ce que les anthropologues ont souvent soutenu, n'est pas un mythe parmi tant d'autres, renverse complètement cette perspective. Dans le mythe, le point de vue est toujours celui de la communauté qui décharge sa violence sur une victime qu'elle considère comme coupable, et à travers l'expulsion de laquelle elle rétablit l'ordre social, à ce point précieux que la victime est divinisée, investie d'un pouvoir sacré par la communauté qui l'a expulsée. Sacrifier signifie en effet rendre sacré. Dans le récit mythique, cependant, la victime est toujours coupable et représentée comme telle. Il suffit de penser à Œdipe, qui commet un parricide et un inceste et qui est donc banni. Freud prend ce mythe à la lettre, tandis que le christianisme nous aide à comprendre que la vérité cachée et refoulée est autre. Le mythe des religions primitives met en scène une farce à laquelle les foules, en proie au paroxysme mimétique, croient, restant ainsi ignorante, précisément parce que, comme l'expliquent les évangiles, ces hommes ne savent pas ce qu'ils font. Le christianisme, du point de vue sociologique et anthropologique, nie cet ordre et cette lecture mythique, car il raconte la même scène, mais du point de vue de la victime, qui est toujours innocente. Il détruit par conséquent les religions qui unissent et coalisent les gens contre des victimes arbitrairement choisies, comme toutes les religions naturelles l'ont toujours fait, à l'exception des religions bibliques. Le christianisme renverse donc cette situation en démontrant que la victime n'est pas coupable et que la foule unanime ne sait pas ce qu'elle fait lorsqu'elle l'accuse injustement. On en trouve déjà des exemples dans l'Ancien Testament, avant même la Passion, qui représente pour moi le sommet de la révélation de l'innocence de la victime sacrifiée par une communauté injuste et violente. Prenons le cas d'Isaïe 52-53. L'innocence de la victime est mise en évidence, mais celle-ci est quand même condamnée par la foule en proie au délire mimétique, unanimement convaincue d'avoir trouvé un coupable pour toutes ces crises internes. Dans de telles circonstances, nous n'avons plus des comportements ou des consciences individuelles, mais nous rejoignons la logique unanime de la foule. Au cours de la Passion, même Pierre, lorsqu'il se retrouve parmi la masse qui accuse le Christ, cède à la tentation et le renie. Les évangiles et la Passion de Jésus révèle et déploie dans sa totalité cette vérité anthropologique. Tout au long de notre histoire d'animaux culturels, nous n'avons cessé de chercher des boucs émissaires pour résoudre nos crises, et nous les avons tués pour ensuite les diviniser, sans savoir cependant ce que nous faisions. La passion du Christ nous l'apprend et nous le dit en toute clarté. Jésus est une victime innocente, sacrifiée par une foule, unanime à se révolter contre lui, après l'avoir ovationné, à peine quelques jours plus tôt. Et cela sans aucune raison particulière. Une telle prise de conscience conduit à la rupture du mécanisme de méconnaissance qui fondait le schéma mythique. Dorénavant, nous ne pouvons plus feindre d'ignorer que l'ordre social se construit en sacrifiant des victimes innocentes. Le christianisme nous prive de ce mécanisme, à la base de l'ordre social et religieux archaïque, et nous introduit dans une nouvelle phase de l'histoire de l'homme que nous pouvons légitimement appeler moderne. Pour moi, toutes les conquêtes de la modernité partent de là, de cette prise de conscience interne au christianisme. Je ne prétends pas que le christianisme ait transformé le monde autant qu'il aurait dû ou pu le faire. Il a lutté contre les religions archaïques et lutte encore contre des formes plus ou moins explicites de sacré. Le christianisme historique a conservé des éléments de religion archaïque. La société, la politique, la culture et l'ensemble du monde où nous vivons sont historiques et cela vaut aussi pour les religions. On a tenté et on tente encore de s'adapter. Mais il est évident que cela demande beaucoup de temps, car l'idée chrétienne s'est insérée dans un monde où la territorialité, où le concept de vengeance était fort, où les actions des êtres humains étaient strictement assujetties à des actions de groupe, à des mécanismes unanimes que nous pourrions qualifier de tribaux. Le christianisme, qui s'efforce d'entrer dans ce monde dangereux, n'a pas la vie facile. Il est clair qu'il a besoin de milliers d'années pour parvenir à déstructurer quelque chose. Nous vivons dans un monde où les possibilités de l'homme sont en augmentation constante, avec des répercussions de plus en plus vastes. Très souvent, les hommes primitifs n'osaient même pas cultiver un lopin de terre à cause du respect et de la crainte que leur inspiraient les esprits occupant ce territoire. Nous n'éprouvons plus ce genre de crainte. Je reconnais que la philosophie des Lumières a représenté un moment historique où la partie chrétienne, occidentale, de l'humanité s'est rendue compte que le monde changeait, que les gens étaient plus libres et que la désacralisation du monde, comparée à l'époque pré-chrétienne, ou même seulement au Moyen-Âge, offrait à l'homme une plus grande possibilité d'action. Mais on a alors vu s'instaurer la croyance erronée selon laquelle ce phénomène était le produit exclusif de l'action des hommes, de leur génie individuel, ou du génie de l'être humain en général. Dans le même temps, cependant, la conscience de la responsabilité humaine envers le monde n'a pas augmenté. Nous disposons d'armes de plus en plus puissantes, mais nous avons un sens très faible de nos responsabilités. Si notre évolution culturelle nous a conduits à remplacer Dieu, alors nous devrions nous rendre compte que nous nous sommes chargés d'une responsabilité énorme et qu'il faudrait nous interroger sur l'importance de la religion, tout autrement que ne le font aujourd'hui les masses médias. Ces derniers perçoivent en effet la religion comme une pensée étrangère à la nature humaine, quelque chose qui se présente sous la forme d'une contrainte, d'un lien, qui peut être nuisible à la santé. La religion nuirait à l'homme, comme le tabac. Mais ce discours néglige le fait qu'il est dans la nature humaine d'avoir des croyances religieuses et que celles-ci doivent avoir un but anthropologique et social. Nous devons aujourd'hui nous demander ce que signifie vivre dans un monde où l'on prétend se passer de la religion. N'y a-t-il pas là un danger, en particulier celui d'un déchaînement de la violence ? Alors qu'il n'est pas impossible, nous le savons, que nous provoquions un jour la fin du monde tel que nous le connaissons, la disparition de la religion ne nous expose-t-elle pas au risque du déchaînement d'une dimension apocalyptique ? Ce que je dis n'est évidemment pas compatible avec la modalité apocalyptique du fondamentalisme protestant, qui imagine le monde détruit par la violence de Dieu. À mon sens, les vrais textes apocalyptiques sont le chapitre 13 de l'Évangile selon saint Marc et le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Pour moi, du point de vue d'un christianisme fondamental, ils comptent encore plus que l'Apocalypse de saint Jean lui-même. Dans le même temps, tout en sachant cela, nous tournons en dérision des textes bibliques comme l'Apocalypse, alors que nous devrions les prendre très au sérieux, puisque la fin du monde y est précisément mise en relation avec le christianisme. Car le judaïsme et le christianisme sont conscients que si nous nous efforçons de nous passer de toutes les prohibitions que les religions archaïques imposaient, non seulement nous nous mettons en péril nous-mêmes, mais nous faisons aussi peser une menace sur l'existence du monde. Les religions archaïques naissent en effet d'une telle prise de conscience. Nous agissons au contraire aujourd'hui comme si nous étions les maîtres du monde, les seigneurs de la nature, sans aucune médiation ou arbitrage. Mais nous savons tous très bien que ces tabous archaïques possédaient une valeur et une signification. Les êtres humains, de même que les nations, ne peuvent pas vivre sans éthique. C'est bien beau d'imaginer que tout est possible, mais en réalité, chacun de nous sait parfaitement qu'il existe des limites. Si les êtres humains et les nations continuent à éluder leurs responsabilités, les risques deviennent énormes. Le monde dans lequel nous vivons est de la vie générale moins violent que par le passé, et nous prenons soin des victimes comme aucune autre civilisation ne l'a jamais fait. Mais ce monde est aussi le plus persécuteur et le plus meurtrier de l'histoire. Le bien comme le mal semblent y augmenter également. Max Weber a proposé l'idée de la sécularisation comme cause du désenchantement du monde. Mais le désenchantement du monde a aussi produit un radical désenchantement de l'idée même de désenchantement. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.